Radio Prague, les informations.
Michael Kocáb sera candidat du Parti des Verts au Sénat. Selon des experts, les extrémistes tchèques chercheraient à entrer dans la haute politique. Incendie d'une locomotive. Le musicien Michael Kocáb a confirmé sa décision de présenter sa candidature pour la sénatoriale de cet automne. Il sera le candidat du Parti des Verts. Michael Kocáb remplacera sur la liste des candidats le comédien et militant pour les droits des homosexuels, Jiří Hromada, qui est tombé malade. Le musicien, chanteur et compositeur Michael Kocáb est un des personnages importants de la révolution de velours qui a renversé en 1989 le régime communiste en Tchécoslovaquie. 400 de personnes ont assisté ce samedi à un concert organisé par des néo-nazis près de la ville de Brno en Moravie. La production a commencé avec quelques heures de retard à cause de plusieurs groupes qui avaient renoncé à leur participation. Selon une organisatrice du concert, 4 groupes ont décliné l'invitation au dernier moment. Selon des experts, les extrémistes tchèques prépareraient le terrain pour leur entrée dans la haute politique. Et le concert des groupes à l'orientation néo-nazie qui a eu lieu ce samedi ferait partie de leur tactique. D'après František Valeš du comité tchèque d'Helsinki, les milieux extrémistes cherchent le soutien de la population pour pouvoir entrer dans les structures parlementaires. L'invasion des armées de l'Union soviétique et de ses alliés en Tchécoslovaquie en août 1968 n'a pas été provoquée par le danger de la contre-révolution, comme le prétendait la propagande officielle, estime Věnek Šilhán, ancien homme politique et collaborateur d'Alexandr Dubček. À son avis, l'Union soviétique de Léonid Brejnev n'a fait qu'investir un territoire qui figurait dans les plans de ses maréchaux comme un espace nécessaire pour le départ à la Troisième Guerre mondiale. La 34e édition du festival L'école d'été du cinéma a pris fin ce dimanche dans la ville de Uherské Hradiště en Moravie. Les organisateurs considèrent cette édition comme réussie, mais d'après Pavel Bednarčík, directeur du festival, il est encore trop tôt pour faire le bilan. Cette fois-ci, le public a pu voir 400 de longs et courts métrages. Les thèmes principaux de cette édition ont été le rapport entre le cinéma et la magie et les films sur le nazisme et le communisme. La locomotive d'un rapide sur la ligne reliant les villes de Hradec Králové et Turnov a été détruite ce dimanche par un incendie. Le train s'est arrêté entre les stations de Jaroměř et de Česká Skalice. Aucun des 60 passagers du train n'a été blessé. Météo, ce dimanche, fête de toutes les milouches selon le calendrier tchèque. Le temps en Tchéquie a été variable à nuageux. Les températures diurnes ont varié entre 24 et 28 degrés. Lundi, le ciel en République tchèque sera nuageux à couvert et il pleuvra par endroits. Les températures diurnes s'échelonneront de 22 à 26 degrés. C'était les informations de Radio Prague qui vous ont été présentées aujourd'hui par Václav Richter.
Culture sans frontières, Anna Kubišta.
Bonjour. Depuis la fin juin et jusqu'au 21 septembre, le musée des arts et métiers de la ville de Prague propose une exposition consacrée à la manufacture de gobelins en Moravie à l'occasion des 110 ans de création de tapisseries à Valašské Meziříčí. En français, les Gobelins, c'est un quartier de Paris, une manufacture de tapisserie, mais aussi une famille de teinturiers et tisserands protestantes dont la maison a servi de refuge aux Huguenots persécutés au XVIIe siècle. En tchèque, la tapisserie type Gobelin a pris le nom de la famille et se dit Gobeline, comme l'explique Jan Stříček, le concepteur de l'exposition, artiste et manufacteur de tapisserie à Valašské Meziříčí.
C'est le terme employé pour les tapisseries classiques, une technique qui remonte à des milliers d'années. Déjà, les tissus coptes retrouvés dans des tombes en Égypte utilisent cette technique. Mais elle a vraiment commencé à s'épanouir à l'époque gothique, à la Renaissance et pendant la période baroque, pour meubler les châteaux. Cette technique a permis de faire des objets décoratifs, mais également des compositions figuratives très compliquées.
L'exposition du Musée des Arts et Métiers présente le fondateur de la manufacture de Valašské Meziříčí, Rudolf Schlatauer, où l'on découvre que les destins sont décidément faits de hasard. Ce peintre de formation, né en Moravie en 1861, qui a voyagé à Berlin, à Paris et dans d'autres centres artistiques, tombe malade de la tuberculose et part se soigner à Oslo, en Norvège.
V Čechách není dlouhá, třeba na rozdíl od Francie.
La tradition des gobelins n'est pas très longue dans les pays tchèques. Contrairement à la France, à la fin du XIXe siècle, il y a eu un mouvement en Europe qui essayait de renouer avec l'artisanat et avec les ornements populaires. Plusieurs manufactures de gobelins sont ainsi nées à travers l'Europe, dont celle de Valašské Meziříčí. Rudolf Schlatauer a découvert cette technique non pas en France, mais lorsqu'il se soignait en Norvège. Il a rapporté cette technique dans la région, en Valachie, où existaient déjà des techniques de tissage.
L'exposition se propose ainsi de retracer les débuts de la manufacture. Elle montre comment Schlatauer a collaboré avec le peintre et graphiste Hannu Schweiger, par exemple, mais aussi avec des architectes. La période de l'entre-deux-guerres, après la mort du fondateur, est riche pour la manufacture, qui s'inscrit dans le courant fonctionnaliste de l'époque. L'architecte Jan Kotiera sera un des architectes avec lesquels elle collabore pour la fabrication de tapis notamment. La libéralisation des années 60 en Tchécoslovaquie touche également la manufacture, qui peut alors s'affranchir des canons idéologiques. Enfin, l'exposition fait la part belle à l'époque actuelle où, contre toute attente, la création de tapisseries continue, comme s'en félicite Jan Strýček.
Justement, c'est quelque chose de très intéressant. Vous savez, la technique de la tapisserie est tellement créative qu'elle a réussi à s'adapter à tous les styles, tout en s'exprimant de manière authentique, depuis l'époque gothique, en passant par la Renaissance et le baroque. Et je pense que cette technique permet de faire des œuvres contemporaines. C'est pour cela que nous essayons de travailler avec de grands artistes tchèques actuels, dont la signature puisse ressortir de façon authentique en tapisserie. Et en parallèle, nous essayons de nous limiter à la technique originale des tapisseries des gobelins sans faire d'expérimentation. Nous travaillons la soie et la laine.
Et à l'heure où le monde va à une vitesse grand V, où tout est et doit être rapide, fabriquer des tapisseries est encore un métier qui demande du temps, où la lenteur prend encore tout son sens. Jan Strýček.
Tout dépend de la finesse de la tapisserie. En gros, 6 personnes peuvent travailler pendant 6 mois sur une tapisserie. La restauration de tapisserie est encore plus compliquée. 6 personnes peuvent travailler sur une œuvre pendant 2 ans.
Et pour cela, il faut des hommes et des femmes dévoués à leur art, prêts à faire corps avec un travail qui est plus qu'un métier, une vraie vocation. Jan Strýček.
Aujourd'hui, nous ne fonctionnons plus en tant qu'école. Nous devons former nos maîtres tapissiers et nos restaurateurs tout seuls. C'est un travail extrêmement exigeant. Il faut au moins 5 ans avant que la personne n'acquiert les connaissances de base. Ensuite, il faut du talent, mais également de la patience. Et puis, il faut aimer le métier.
L'amour du métier, c'est clairement une chose que partagent tous les tisserands qui exercent encore de par le monde. Valašské Meziříčí est une petite ville située dans les montagnes près de la frontière slovaque, loin du rush de la capitale. Alors, qu'en est-il des contacts avec les manufactures traditionnelles à l'étranger? Y a-t-il des projets de coopération et d'échange? Jan Strýček.
C'est quelque chose que nous aimerions beaucoup. La manufacture des gobelins avait entamé une excellente collaboration avec les ateliers d'Aubusson en France après la guerre. Certains des artisans sont même venus en stage chez nous. Évidemment, après 1948, cette collaboration a été interrompue. On essaye de la reprendre aujourd'hui. Nous aimerions beaucoup collaborer avec des écoles du tissu à l'étranger parce que je pense qu'il pourrait y avoir un enrichissement mutuel. Dans notre manufacture, nous organisons aussi des workshops à la fois pour les néophytes ou pour les artisans du tissu qui peuvent venir une semaine et travailler.
Et avant de clore la conversation avec Jan Stelicek, je lui ai encore demandé quelles étaient les qualités principales pour une tapisserie.
Il y a deux moments pour une tapisserie des Gobelins. Il y a d'un côté un artisanat d'exception, avec la perfection du tissage et une véritable authenticité. Chaque projet nécessite une autre façon de travailler, car chaque artiste a une autre signature. Et les maîtres tapissiers doivent s'en imprégner, trouver un langage particulier pour chaque artiste. Et puis, la qualité artistique du projet est essentielle. C'est pourquoi nous essayons de travailler avec les meilleurs artistes.
On passe à un petit agenda culturel maintenant. Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises. Jusqu'au 17 août se déroulent les fêtes d'été de musique ancienne organisées par le Collegium Marianum, qui collabore notamment avec le Festival de musique de Sablé en France. Les fêtes d'été sont déjà bien entamées. Vous le savez, le 6 août, l'Opéra d'État à Prague présente Le médecin malgré lui de Molière, un spectacle de la Fabrique à théâtre en français, surtitré en tchèque et surtout à la lumière des chandelles. Atmosphère d'époque garantie. Le reste du programme proposera encore quelques concerts, et notamment un concert de clôture intitulé Maestro des Bohémia, qui présentera des œuvres du compositeur tchèque Jan Dismas Zelenka, un des plus importants représentants de la musique baroque. C'est le contre-ténor français Philippe Jarouski qui interprétera ces œuvres, accompagné par l'ensemble tchèque Musica Florea. Jusqu'au 20 août, le Centre tchèque de Prague propose une exposition intitulée « Le nouveau visage de Prague, l'architecture contemporaine à Prague depuis 1990 ». Préparée par la galerie Fragner, comme son titre l'indique, elle présente les projets architecturaux qui, depuis la chute du communisme, ont progressivement changé le paysage pragois. Son symbole le plus frappant étant bien entendu la célèbre maison qui danse, évoquant Ginger Rogers et Fred Astaire dansant, réalisée par l'américain Frank Gehry. Pour l'architecte tchèque Zdeněk Lukeš, la chute du communisme a été le synonyme d'une vraie rupture.
Les architectes ont vu d'un coup s'ouvrir l'horizon des thèmes qu'il était possible d'aborder, même ce qui était interdit comme l'architecture sacrée. Mais au début des années 1990, c'est surtout les bâtiments administratifs qui ont commencé à se construire.
Des quartiers entiers de Prague ont changé, certains comme le quartier de Smíchov. Là où autrefois se rendaient les ouvriers pour fabriquer des locomotives et des trains, se ruent aujourd'hui businessmen et gens pressés de faire leurs courses dans de nouveaux centres commerciaux. Le quartier de Karlín, lui, également un ancien quartier industriel, d'où pointent encore d'anciennes cheminées des fabriques d'antan, a été forcé de changer. Après les inondations dévastatrices d'août 2002, il a fallu reconstruire et souvent raser, même si, par chance, le patrimoine industriel est également réutilisé et réadapté à la vie actuelle.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách.
Enfin, à l'occasion des 40 ans de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie mettant fin à l'expérience de démocratisation du printemps de Prague, l'hôtel de ville de Prague organise une exposition présentant les photographies les plus emblématiques et les plus poignantes de l'événement. Celle du photographe tchèque Josef Koudelka, dont une monographie intitulée sobrement « Invasion 1968 » est sortie en tchèque, français et anglais. Photos connues à revoir ou photos inédites à découvrir, l'occasion d'approcher de près l'œuvre magistrale de celui-ci qui longtemps ne fut connu sous ses clichés que comme photographe tchèque inconnu. L'exposition Invasion 1968, ce sera du 9 août au 20 septembre.
Tato noc nebude krátka, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami, nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá, budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Voilà, c'est la fin de Culture sans frontières. Retrouvez cette rubrique sur le www.radio.cz. À la semaine prochaine, ahoy.
Vous avez dit la République tchèque. Voyagez donc, Alain Slivinski.
Nous en avons déjà parlé dans notre rubrique touristique, mais comme je m'y suis rendu récemment, un peu par hasard, je vous propose de faire une balade dans la commune de Koux, qui se trouve au nord-est de la Bohême. Pourquoi ? Parce que j'y ai découvert plein de choses qui pourraient intéresser les touristes. Ce sera donc le sujet de notre guide de cette semaine. C'est en me rendant à Jatzlej, à quelques kilomètres de la frontière polonaise, dans le nord-est de la Bohême, que j'ai eu l'idée de faire un détour à quelques kilomètres de Stara Parka pour passer par Koux, commune dont le nom est bien connu aussi bien en Tchéquie qu'à l'étranger. J'en avais entendu parler avec admiration et j'étais donc curieux de savoir ce que cette localité pouvait offrir aux touristes. Tout d'abord, il y a son nom, qui n'est vraiment pas courant, Koux, écrit K-U-K-S, qui s'est appelé aussi Koukous, ou Koux avec un X. Le nom provient probablement du vieil allemand et sa signification serait en relation avec une certaine partie du produit de la mine. D'après d'autres sources, il pourrait s'agir de l'appellation des restes de la fonte des métaux. Avec ces explications, on arrive tout de suite à l'origine de la localité qui comporte deux étapes historiques. Celle de l'extraction du minerai d'or, on pourrait plutôt parler de lavage, et celle de l'art baroque et de la gloire de la station thermale locale. On parle souvent du château de Koux, l'un des plus vastes en Bohême du Nord. Pourtant, ce château, entre guillemets, n'en est pas un en vérité, car il s'agit d'un ancien hôpital, plutôt un hospice, qui avait été construit sur l'ordre du seigneur des lieux, le puissant comte František Antonín Špork. Ce dernier s'est rendu célèbre en tant que mécène des arts, éditeur de livres, grand amateur de chasse et propriétaire des bains locaux. A ce sujet, le châtelain de Koux, Libor Švec.
Koux v té době byl známý pouze svými minerálními prameny.
À cette époque, Koux était connu seulement pour ses sources minérales. Le comte Špork s'était fixé comme objectif de faire de Koux une station thermale de renommée mondiale. Il y est parvenu, car Koux, au début du XVIIIe siècle, était plus célèbre que Karlovy Vary ou même Spa en Belgique.
Ainsi donc, dans la vallée très peu peuplée de l'Elbe, le comte a ordonné la construction d'un grandiose ensemble de bains et bâtiments religieux, richement décorés de sculptures. L'urbanisation de la localité a été divisée en deux parties. Sur la rive gauche ont été construits les bâtiments destinés à la vie de société, alors que la rive droite fut réservée à la vie spirituelle. Ce fut le château de Coux, dont l'ancien hôpital dont nous avons parlé, qui fut peut-être l'objet du plus de décorations. Aujourd'hui, son lapidaire abrite les originaux des œuvres d'un des plus grands sculpteurs tchèques de l'époque, Matyáš Bernard Braun. Au temps du comte Špork et de l'expanouissement de Coux, Braun n'était encore qu'un jeune sculpteur de talent, et le comte lui donna sa chance en le chargeant de décorer en statues et groupes de sculptures le vaste hôpital et les bâtiments des bains. Aujourd'hui, le public ne peut admirer que les copies des œuvres de Braun, mais celles-ci attirent quand même tous les ans des dizaines de milliers de visiteurs. Je dois dire qu'elles m'ont fait une grande impression, connaissant pourtant les magnifiques statues de Braun à Prague ou dans d'autres localités. Le chapelain de Coux nous a présenté l'une des plus belles statues de Coux. On l'écoute.
Sur la terrasse se dresse la statue de l'allégorie de la religion, dont on dit qu'elle est probablement la plus belle statue baroque en Tchéquie. Si vous vous représentez qu'à l'origine c'était un bloc de grès de 5 tonnes et que vous contemplez aujourd'hui les fines draperies et les ailes élancées, vous devez reconnaître que c'est vraiment une œuvre unique, un travail de maître. Ce qui est encore très intéressant ici et qui reste vraiment dans la mémoire de chaque visiteur, à l'entrée ou à la sortie, ce sont les statues des vices et des vertus.
Ce qui m'a intéressé encore à Coux, c'est le tombeau du comte Špork, qui se trouve dans le sous-sol de l'église locale. En effet, il n'est ouvert au public que depuis quelque temps, et on peut y admirer une œuvre unique en son genre de Matyáš Bernard Braun. Plus de détails avec le châtelain de Coux, Libor Švec, de nouveau.
Ce qui est vraiment unique ici, c'est la statue du Christ. C'est certainement la seule statue en bois du Christ de Matyáš Bernard Braun, ici, à Coux. En général, elles sont toutes en grès. C'est une œuvre unique. Autrement, la crypte abrite 20 cercueils, dont 17 sont sertis de fer forgé, mais celui du comte František Antonín Špork, le fondateur de toute la propriété, est en éteint.
C'est après la mort du comte que tout a changé à Coux. Sa renommée s'est évanouie aussi vite qu'elle était apparue, en 40 ans seulement. Les héritiers du comte ne s'intéressèrent plus aux bains, la vie de la société de la région se déplaça ailleurs, et aujourd'hui, seule une petite partie du vaste ensemble s'est conservée. Pour les amateurs de sculpture, et surtout les admirateurs de Matyáš Bernard Braun, je recommanderais encore la galerie de statues en plein air que l'artiste a réalisée pour le comte Špork entre 1726 et 1733. La galerie n'est pas loin du château et porte le nom de son plus important groupe de sculptures, Bethléem. Si vous voulez vous rendre dans une magnifique région de la Bohême et en plus de cela admirer les œuvres d'un des plus grands sculpteurs du baroque tchèque, ce n'est pas difficile. De Prague, vous prenez la route des Monts des Géants et direction Dvůr Králové. Une telle excursion peut vous remplir toute une journée de vacances, à environ 150 km de la capitale. En plus de Coux, nous vous recommandons aussi de visiter le zoo safari de Dvůr Králové, justement, qui se trouve sur votre route. Alors, bonne route et rendez-vous à l'écoute d'une nouvelle émission de notre guide touristique.
Od Boha posane zvene, You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.